Bienvenue à l'émission Lecture en tête à tête,
une émission imaginée par l'association Lecture en tête pour ses 30 ans,
en partenariat avec l'autre radio
et l'association Lecture en tête.
Parmi les 18 romans sélectionnés par Lecture en tête, il en est un qui a particulièrement retenu mon attention. Il s'agit du roman de Sarah Mishkin, De minuit à minuit, publié aux éditions Le Bruit du Monde. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Et merci de passer un peu de temps avec nous. Sarah, tu es poétesse franco-tunisienne et tu as publié deux recueils de poésie, L'été et La pluie de l'aube. Comment t'es venue l'idée d'écrire un roman constitué de 16 mouvements qui raconte l'histoire tragique d'une femme perdue dans la colline du Krak à Paris?
Alors c'est très étrange, quand on pose ces questions-là, moi j'ai une pratique d'écriture qui est assez constante. Tous les jours en fait j'écris quoi, et enfin j'écris la nuit, donc j'ai toujours quelque chose comme ça où il y a une longue litanie, enfin généralement ça passe beaucoup par la poésie. J'ai toujours voulu écrire des romans après, mais c'était un gros questionnement en fait pour moi de me dire ça, j'ai une langue qui est très poétique, comment je fais si je veux garder cette langue là et en même temps réussir à raconter une histoire. Et au tout début, j'avais vraiment l'impression de, oui, si je veux écrire un roman, en fait, je vais me trahir, entre guillemets, quoi. Je ne vais pas réussir à garder cette langue-là poétique, tout en... Parce que c'est compliqué, enfin, la poésie, je trouve, la façon dont je l'aborde, en tout cas, il y a un abandon total et on n'a pas besoin de se dire, oui, l'autre personne va avoir besoin de comprendre de manière rationnelle. On peut se dire, tu vois, ça peut être juste dans la sensation, dans quelque chose, mais les gens peuvent rester complètement dans la compréhension aussi. Donc, il y avait vraiment pour moi un peu un arrachement que de me dire, ok, je vais devoir écrire, mais pour que ça puisse être reçu aussi, qu'une personne puisse le lire et puisse comprendre exactement, moi, ce que j'ai envie d'amener, une histoire, etc. Et ce roman-là, en fait, j'avais écrit, je tâtonnais un peu, j'avais écrit plein de débuts d'histoire, de milieux d'histoire, etc. Et j'ai commencé le Madous, qui est à chaque fois l'accroche qui revient, qui est la litanie, qui marque un peu, qui ponctue la voix de cette mère-là. Et en fait, quand j'ai commencé ça, il y a tout qui s'est déversé, quoi. En quelques mois, j'ai eu ce roman-là. Et après, j'ai la particularité de... J'écris pas à l'endroit. Enfin, je dois, en fait, après revenir et remettre les choses...
dans le bon sens.
Exactement.
Alors, on t'avait demandé de nous donner en partage deux morceaux de musique qui t'avaient vraiment interpellé. Et le premier, c'était un morceau de More Mother.
C'est ça.
Que j'ai découvert grâce à toi, que j'ai trouvé extraordinaire. Et on va en écouter un petit extrait.
An honor was a memory. As a memory was an honor. Of the fallen titans. Of history, our God. pillars of truth and foundation. And memory.
Turmeric root, garlic root, dandelion roots.
And memory. Hold your hand. Stand tall, don't break, stand tall. Don't break, hold your head. Wrap yourself in prayer, stand tall, don't break. Don't break, don't break, don't break. Don't break.
The line of affections.
See you on the other side.
The will of fortune, the world.
See you on the other side.
The sun. The King of Swords. The Fool. Queen of Wands. Three of Cups. The Hermit. Harmonic function. Democracy. Slave House Senate.
Rise all over.
Outhouse Prime Minister.
Rise all over.
Chicken House Humanity. And memory. And memory. All mothers, so many mothers, so many mothers, so many mothers. And memory.
Quand j'ai écouté ce morceau-là, j'avais l'impression d'être transportée dans un monde complètement irréel. Et pourtant, quand j'ai mis mon attention aux mots que j'entendais, les mots étaient les suivants. Souvenir, honneur, tomber, déchu, fardeau, tête haute, tenez-vous droit, mémoire de nos mères, père, aïeux, mémoire de nous tous. Quand je les prononce comme ça, ça semble un peu décousu. Et curieusement, tous ces termes-là, d'une manière ou d'une autre, sont dans ton roman.
Absolument. Ouais, ça, c'est vrai que c'est étrange. Enfin, j'ai toujours, en fait... Enfin, toute personne, je pense à un peu des paysages qu'on met avant de construire un roman. Moi, c'est vrai qu'à chaque fois, je fais une playlist et ce morceau était dedans. Et je fais pas forcément attention aux paroles, mais c'est sûr que ça occupe. Et après, enfin, assez généralement, en fait, dans les existences du Sud, les existences racisées, du coup, et particulièrement l'histoire noire, il y a quelque chose qui revient, en fait, tout le temps, qui est de cet ordre-là, qui est de l'ordre de la dignité, de la mémoire. Mormother, cette artiste-là, c'est aussi une artiste noire, pour le coup, et elle creuse beaucoup ce qu'on appelle l'afrofuturisme, et c'est un mouvement, en fait, qui est autant théorique qu'artistique, et en fait, qui explore qu'est-ce que c'est la temporalité pour les existences noires, parce qu'il y a quelque chose où l'esclavage, en fait, ça fait un espèce de... comme si on part d'un néant, mais un néant qui arrive au XVe siècle, on ne sait pas en fait quelles étaient nos histoires avant ça. Et ensuite, il y a toujours quelque chose de l'ordre de la rupture. Enfin, la transmission en fait n'est pas opérée, quoi. Donc toutes ces questions-là des aïeux, de la la dignité, de la tête haute, du fardeau, ça fait partie en fait de l'existence noire et jusqu'à maintenant ouais. quoi.
Alors on y reviendra tout à l'heure justement à la colonisation et tout ça. Ton roman se concentre sur la relation mère-fille, relation qui va disparaître. Cette mère droguée va sa fille, on va lui retirer. Les services sociaux viennent lui retirer sa fille et elle a une heure pour écrire une lettre à sa fille. Cette petite fille recevra la lettre quand elle aura 18 ans.
C'est ça.
Dans cette lettre, cette mère évoque sa propre mère en la qualifiant de mère néant. Pourrais-tu nous dire à quoi ça correspond, cette mère néant ?
Je pense que c'est vraiment... La mère, généralement, je trouve les parents, c'est le premier pot au monde, en fait. Et je pense que comme enfant, il y a quelque chose où il y a une indifférenciation entre le monde, la réalité et les parents. Et ça veut dire que ça, donc quand on a des parents qui sont sains, où on a un amour aussi qui est sain, etc., on a tout de suite un rapport au monde où on se sent en sécurité, on a l'impression que tous les endroits où on peut aller, c'est des endroits même si qui sont inconnus, qu'il y a une certaine familiarité, etc. On se dit même chose que les autres, il n'y a pas de danger à aller les rencontrer. Quand l'amour est plus difficile à recevoir ou que on vient de parents en fait qui ont eu des existences cassées aussi des blessures, il y a quelque chose de on part d'un creux en fait quoi. Et je pense que c'était ça l'idée de mère néant pour elle, c'est que oui c'est en même temps c'est une filiation mais c'est une filiation du rien. Et je pense qu'il y a beaucoup la question du silence qui m'occupe mais voilà, généralement alors, dans l'écriture.
Ouais. Alors justement quand je peux me permettre de lire un petit extrait là
oui,
où c'est, il y a eu ma mère en creux. De tout, c'est ce que tu viens d'expliquer, de tout ce qui est ma mère néant, ma mère négative tachée et sale, ma mère percée d'amour séisme et de tendresse âcre, doigt triste et neigeux, ma mère comme un destin, comme l'embryon de toutes mes rebuffades, mes jalousies, mon désir malade d'exister. Comment elle va-t-elle à son tour devenir mère néant ?
Mais je pense que, enfin oui, de toute manière, c'est ce que tu disais avant, c'est que c'est de la relation mère-fille et dès la naissance de sa fille est mise en danger en fait. Il y a le côté de, elle sent déjà que oui, elle va la perdre et elle la perd effectivement. Et moi, une de mes grandes questions généralement, c'est une question basique quoi. C'est vraiment de, à quel point en fait les existences qui sont venues avant nous déterminent la nôtre. Et c'est vraiment toute la tragédie grecque, c'est ça aussi. Hein. Enfin, c'est vraiment une grande question humaine,
ouais,
je pense, généralement. Quoi.
Ouais, ouais.
Et c'est vrai que, oui, comme elle porte toutes ces blessures-là, et par cette filiation-là, il y a un côté aussi, où, et c'est ce qu'elle dit, ma mère comme un destin aussi, est-ce qu'en fait, elle a d'autres possibilités vraiment que celui-ci, que de perdre sa fille à un moment donné, c'est toute la question qui est là en tension et jusqu'à maintenant. Et moi, j'ai pas l'impression qu'elle soit complètement résolue dans ce livre-là, quoi, parce que la lettre reste quand même un lien aussi. Et moi-même, j'ai pas résolu cette question-là en fait. Donc, je pense que je voulais.
Est-ce que cette lettre-là n'est pas une manière d'éviter de devenir mère néant ?
Je pense que complètement pour le coup. Enfin, moi, c'est là où jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que c'est quand même l'amour qui reste. De ce roman-là, c'est que même avec tout cette charge, ce fardeau qu'elle porte, qui a tracé une voie très très fine sur laquelle elle peut tenir sa vie, enfin, c'est vraiment une vie de funambule, quoi. Il y a quand même ce dernier geste-là qui est la transmission justement qui a été coupée. Elle se dit, je veux pas que ça finisse sur du silence. Donc la seule chose que je peux faire, c'est écrire cette lettre, et je vais le faire, même si c'est pas grand-chose, même si voilà, je vais quand même essayer de pas finir moi mère néant complètement pour ma fille et de lui laisser un héritage.
Ouais. N'y a-t-il pas volonté justement de cette maman, lorsqu'elle évoque le monde dans lequel elle vit et pourquoi elle en est arrivée là, d'attirer l'attention de sa fille sur le monde dans lequel elle va mettre les pieds ?
Complètement, complètement. Moi, pour le coup, ça, c'est une chose où j'avais beaucoup d'attention quand même pour cette mère. Moi, j'avais beaucoup d'amour pour cette mère-là aussi. Et de me dire, oui, c'est important pour moi qu'elle ne soit pas dépossédée complètement. Et la dépossession, ça passe aussi par ce côté-là de si tu ne sais pas, en fait, quels ressorts font que ta vie est devenue ce qu'elle est devenue. Mm-hmm. Elle est très lucide, en fait. Elle sait exactement pourquoi, etc. Elle sait aussi que ça ne dépend pas que d'elle. Et il y a ce côté-là de, oui, c'est un geste d'amour aussi. C'est-à-dire que je vais te dire les choses, ça va être dur à entendre, ça va être violent. Mais comme ça, toi, tu auras les outils que moi, j'avais peut-être pas à cette époque-là pour savoir, oui, qu'est-ce que c'est ce monde. Et jusque-là, elle reste lucide. Il y a tout ce côté-là aussi de la question de vouloir faire des enfants généralement, quoi, dans ce monde-là, ouais. Où j'ai l'impression qu'elle est assez lucide par rapport à ça aussi. Elle l'a fait quand même, mais jusqu'au bout, elle interroge aussi la validité, entre guillemets, de faire des enfants. Mais du coup, si elle le fait, elle se dit, oui, d'accord, j'ai quand même, du coup, une transmission à faire là-dedans aussi, et de te dire, voilà, je te mets dans ce monde, mais c'est ce monde-là, en fait, qui est ce monde-là, avec toute la violence qu'il comporte.
Voilà.
Et ce toi, en étant ma fille, tu vas être confrontée à cette violence-là aussi.
Ce qui fait de ton roman un roman profondément social.
Ah oui, complètement.
Ça, ça se ressent énormément. Alors qu'au premier abord, c'est notre affect qui est pris. Et quand on vient de plus près, mais c'est profondément social. Toute la société est remise en cause, quoi. Oui. Voilà.
Oui, oui, non, ça c'est le... Mais de toute manière, c'est beaucoup des questions contemporaines aussi, mais on se rend compte que ça, en fait, il n'y a pas forcément de différence entre l'intime et le politique et l'affect et le social. Et moi, je trouve que oui, mon roman est un bon exemple de ça. Et par contre, je sais que oui, j'avais ça en tête. Je me disais, j'aimerais trouver une voix qui puisse porter... toutes les voix de personnes minorisées, quoi. En tout cas, qui se situe vraiment à un carrefour, à une intersection, où en fait, de sa place à elle, elle peut dire la société dans son ensemble. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est pas parce qu'elle y participe, entre guillemets, c'est parce qu'elle est à la marge de la marge de la marge, mais c'est vraiment même dans l'espace. Ça veut dire qu'elle se situe à un endroit où c'est comme si elle voyait tout, quoi.
Oui, oui.
Et donc, oui,
et
ça fait...
Et ça se sent, ça.
Et ça se sent.
Oui, mais ça se sent. On va peut-être écouter le deuxième extrait que tu as choisi, qui est « Vue de la 7 ». De Éclose.
C'est ça.
Ma vie derrière l'écran, je fais des maquettes de feu. Pas mon côté, c'est maintenant, je sais ce que je veux. Je dois monter les degrés, les enjeux. J'ai du rap plein, les temps, un peu de love, je mets les deux. Car merci Dieu, c'est ma peur le plus dégueu. Si tu t'assures, ma table, je sais qui tu es. Y'a les envieux, les ambitieux. Je veux casser des totés, je veux soulever des fous. Je m'en suis jamais caché, fuck, j'ai travaillé pour des années. Que je le fais, que je remets tout en doute. Comme quand tu me dis qu'il me kiffe, E-K-L-O-Z, si tu demandes qui tire. Si tu demandes qui tire. Tellement de rage en moi, je pourrais rapper ça devant des DG de la belle. T'aimes ou t'aimes pas, c'est la même, faut que tu signes. Faut qu'ils comprennent. Dites-leur qu'ils sont à la traîne. Ils sont à la traîne, à la ramasse. Alors j'ai que la vue de la 7. Ma vie derrière l'écran, ça n'a pas de sens. Mais jamais je m'en lasserai. Corps emmêlé comme les filaires. Le corps enflé, c'est inerte. Depuis le temps, je cherche l'antidote. Et je dis, j'ai mon dit, ils m'ont dit, tu baisses tout demain. Je suis dans le vide, y'a aucune main.
Ton roman interroge aussi sur la domination coloniale et patriarcale. Tu évoques là, et je te cite, le poids de la domination des hommes blancs sur le reste du monde, de tous les hommes sur notre sexe. Peut-on dire que ton roman est aussi un roman politique ?
Oui, je pense complètement. Bah, à mon avis, dans tous les cas, il y a un... Enfin, moi, je pense pas du tout qu'on puisse, en fait, qu'il y ait des domaines, en tout cas, qui ne soient pas politiques. Je pense que tout domaine peut l'être, quoi. Et les romans particulièrement, parce qu'il y a un récit qui est donné, ça veut dire qu'on donne la parole à certaines personnes, et ça veut dire aussi que ça, en fait, tout auteur-autrice, même quand on a plusieurs personnages, on donne une certaine vision de la société, on donne une certaine vision du monde, on donne une certaine vision aussi de quelles personnes ont le droit à l'humanité, entre guillemets, enfin, quelles humanités ont le droit d'être racontées, quelles humanités non. Donc, en fait, il y a toujours cette simple agentivité-là, pour moi, en fait un geste politique.
C'est pour ça que la littérature a un rôle important à jouer.
Complètement, voilà. Et c'est pour ça aussi que oui, pour moi, c'était, si j'écris un roman, et si j'écris particulièrement, j'ai toujours eu la notion de, il y a une responsabilité en fait. Et pour moi, en tout cas, il y a une responsabilité. Je pense que c'est aussi lié forcément à nos existences. On n'habite pas tous les mêmes corps, on n'a pas tous les mêmes existences non plus. Mais c'est vrai que, moi de me dire, moi d'accord, comme franco-tunisienne, moi je suis orpheline aussi. Donc, il y a ça aussi en fait, mon existence du coup a été tracée aussi par la colonisation et par le patriarcat, parce que mon père, il est mort d'une crise cardiaque quand moi j'avais 5 ans. C'était une personne tunisienne noire, du coup immigrée en France, qui a de classe populaire, qui a travaillé toute sa vie à partir de 14 ans, etc. Et j'ai appris en fait, c'était il y a une année en gros, que il y a énormément de problèmes cardiaques pour les personnes qui viennent des suds de classe populaire, parce qu'il y a tellement en fait de violences, que ce soit les violences racistes du coup, et que ce soit aussi simplement les métiers qu'ils font, qui fait que le corps saute en fait, au bout d'un moment. Et ma mère, c'est une personne qui a été incestée, qui est devenue bipolaire après coup, mais même chose, les problèmes de santé mentale, en fait, il y a énormément de personnes qui ont subi des violences sexuelles, et notamment l'inceste, et qui s'est suicidée. Donc, moi, je porte la mort de deux personnes qui sont des morts qui sont liées à des dominations plus larges, qui sont des dominations patriarcales, qui sont des dominations héritées de la colonisation aussi. Et donc ça veut dire que pour moi, écrire, il y a une responsabilité énorme derrière. Et ça veut dire que c'est porter la voix d'un certain nombre de personnes. Il y a vraiment le côté de vengeance aussi et de la colère, et qui reste là, et je pense qu'il restera dans tous les cas. Et de porter une parole, généralement il y a un poids en fait. Il y a un poids.
Et c'est important, et merci de nous éveiller à ça, parce que c'est des choses qu'on occulte, et puis voilà, alors que c'est la réalité.
Complètement, c'est la réalité de beaucoup de personnes. Enfin, l'inceste, par exemple, c'est énorme en fait. C'est des choses qui pallient tout, et c'est vrai que c'est des trous de silence aussi. Enfin, c'est vrai que c'est intéressant, tu dis ça, une occultation, c'est aussi une silenciation à chaque fois. Donc ces vies-là, pour les personnes qui les vivent, c'est des réalités, et en fait, c'est des réalités qui transitent aussi dans les quotidiens de toute personne, et qui modèlent aussi, qui sont structurantes quand même. Et pour autant, le fait que ce soit occulté et qu'il y ait une silenciation fait qu'on a l'impression que c'est des choses de la marge, et puis ça veut dire que c'est des choses qui occuperaient aussi que ces personnes-là, et pas le reste de la société. Et moi, ça, je pense généralement, enfin, même des dominations qui ne sont pas les miennes, par exemple, je pense au traitement pour les personnes handicapées, les choses comme ça. Ce qui t'engage, toi, t'engage moi. Enfin, on est ensemble dans cette société-là, on construit les choses ensemble aussi.
Ce qui explique un passage que j'ai retenu, qui m'a marqué, parce qu'il y a un moment où elle dit à sa fille, c'est une manière discrète de lui dire, je te préviens, tu vas maintenant être pris en charge par un monde qui va essayer de te faire occulter d'où tu viens, ce que tu es, et qui va quelque part te formater.
Oui, complètement. Mais parce que je pense que c'est ça, assez généralement, mais c'est toujours la question des récits aussi. Parce que par exemple, je trouve la colonisation, c'est vraiment un bon exemple de ça. C'est-à-dire que si on avait un récit de manière plus large, donc qui passe par l'école, qui passe par les récits qu'on se raconte aussi, c'est vrai. Et des fois, c'est vraiment des questions de mots. Par exemple, l'Algérie, c'est vraiment ça. Est-ce qu'on dit la guerre d'Algérie ou est-ce qu'on dit la guerre d'indépendance ? Donc c'est vraiment des toutes petites choses qui font que tout d'un coup, on se situe dans un récit ou on se situe dans l'autre. Et assez généralement, ces récits-là, sont des récits qui sont à la marge, qui sont occultés, qui sont invisibilisés. Et il y a des récits, les récits dominants en fait, les récits qui nous structurent de manière sociale, en France en tout cas, qui sont autres et qui font qu'on a l'impression que ces récits-là, les autres, donc ne participent pas à la réalité française, à la réalité sociale, à la réalité contemporaine. Et elle sait bien que sa fille, si elle va être élevée donc ça par les services sociaux, qu'elle va passer par l'école, que plein de choses, ça veut dire que elle va avoir une espèce de rupture, et on va essayer de l'amener dans ce récit-là.
Voilà, dans ce récit-là.
Exactement.
Il y a beaucoup de noirceur dans ton roman qui évoque l'exclusion, le laisser pour compte, les rebuts de la société, ça on en a déjà parlé. Pourtant, la parole de cette mère est aussi un grand cri de vie. Un grand cri à exister. Donc cela fait aussi ton roman un roman plein d'espérance et d'amour, j'ai trouvé. Des veilles à cet amour, je vais citer, il y a un moment où tu dis « Notre seul tort, c'est de continuer à vouloir vivre encore et encore et encore. » D'une manière de dire, quoi que vous fassiez, on vit.
Oui.
On est là.
Oui. Et ça, c'est l'idée de la dignité. Ouais, et même chose, que ce soit beaucoup pendant les luttes d'indépendance pour la colonisation et jusqu'à maintenant, cette idée-là de dignité pour les personnes qui ont vécu ces dominations-là, elle est majeure en fait. Et elle est majeure parce que ça, il y a tellement eu de déshumanisation qu'à quoi on se raccroche. Et ça veut dire que ça, le côté de la tête haute, tu vois, dont tu parlais, etc., c'est des choses dont on a besoin pour tenir. Et même, je me dis généralement, oui, ce tort de vouloir continuer à vivre, même là, on voit en Palestine aussi, c'est ça, quoi. Le côté de, c'est le problème. Il y a vraiment des moments où, oui, le seul problème, c'est que les personnes continuent à vivre. Ouais. Et des personnes sans abri. Et même chose, la colline du crack, généralement, c'est ça aussi. Ouais. C'est-à-dire que quand on voit les reproches, généralement, qui leur sont faits, c'est juste parce qu'ils sont là, dans l'espace public, quoi. Ouais. Donc, c'est extrêmement violent, en l'occurrence.
C'est très violent.
Quoi.
C'est très extrêmement violent.
Et pour moi, c'était important qu'elle le rappelle, ça. Et c'est aussi pour elle de se... En l'occurrence, il y a peu de gestes d'amour qu'elle fait juste par rapport à elle-même, je trouve. Mais celui-là en est un. C'est de dire, voilà, moi je sais que jusqu'à maintenant, on a eu beau me dire toutes ces choses-là, je sais que mon seul tort, ça a été de continuer à vouloir vivre jusque-là. Quoi. Et, ouais.
Alors tu es poétesse, ce qui explique peut-être la forme versifiée de ton texte. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le choix de cette forme ?
En fait, j'ai essayé de rester au plus proche de moi la façon dont j'écris naturellement. Et cette forme-là versifiée, c'est vrai que je suis poétesse, mais c'était pas une attention particulière. En fait, c'est une question de rythme pour moi. Et je pense que j'ai un côté très visuel aussi, même quand j'écris. Mmh. Et donc, moi, j'écris à la main jusqu'à maintenant, parce que je trouve qu'il y a un côté de geste où ça nous engage complètement. Et donc, j'écris en sautant à la ligne, mais du coup, de manière très aléatoire. Enfin, je pense pas trop la chose. Et quand j'ai remis le texte, du coup, ça en tapuscrit, donc à l'ordinateur, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie, encore une fois, de trahir la façon dont j'écris, je veux le laisser comme ça. Et je me suis dit aussi, outre la question de rythme, j'ai l'impression que des fois, il y a un côté de sa parole, soit qui chute, ou qui est habité par des ruptures, par des silences, et je trouvais important de pouvoir le restituer aussi, quoi. Même si je savais que ça allait être plus déstabilisant potentiellement pour des lecteurs et des lectrices, je me suis dit oui, et ça fait aussi une expérience pour moi qui est plus complète, même ce côté déstabilisant là, on arrive dans cet espace là qui est complètement structuré par la parole de cette mère, et c'est juste ça le point de repère, rien d'autre. Ouais, ouais. Quoi.
Et c'est vrai que quand on le lit à voix haute, ça prend une autre dimension.
Ouais. Voilà. Ouais.
Ça mériterait d'ailleurs d'être adapté.
Oui, ça, on me l'a beaucoup dit.
Ah oui, pense que c'est peut-être un projet à creuser.
Complètement.
Alors, une dernière petite chose. J'ai relevé dans ton roman et aussi dans un livre de poèmes, je crois que c'est...
Ouais, la plaie de l'aube.
Oui, la plaie de l'aube. J'ai relevé des allusions à la mythologie. Tu parles de Polyphème, tu parles de Sisyphe.
Ouais.
Tu parles, dans La Paix de l'Aube, tu parles des Érinées, tu parles de Cassandre et tu évoques un personnage que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, Aïcha Khadija. Pourquoi ces allusions à la mythologie ? Est-ce que ce sont encore des éléments de repère dans notre monde d'aujourd'hui ?
Ah oui, complètement. Mais moi, je pense vraiment que... Enfin, on a l'impression dans le monde contemporain, ça, qu'on met des récits, mais qui sont des récits scientifiques, très sérieux, historiques, etc. Mais moi, je pense que c'est juste vraiment en question de fabrique de récits, quoi. Et je sais que ça, par exemple, moi, j'ai été à l'école du Louvre avant, donc il y a vraiment un côté d'histoire aussi.
Ouais.
Et c'est très intéressant et amusant aussi de voir l'identité nationale, c'est toujours une fabrication de récits. Même ce côté-là, par exemple, l'Occident, généralement, où on a l'impression que oui, ça, c'est né de la Grèce antique, etc., et la Rome antique, mais la Grèce antique et la Rome antique n'avaient aucune idée du fait que l'Occident allait se dire, oui, on est dans la continuité. Je pense que si eux étaient présents maintenant, ils se diraient, ça n'a rien à voir vous, ce que vous faites avec nous, ce qu'on essayait de faire. Et il y a aussi ce truc-là, c'est vraiment de l'ordre de la fiction. C'est c'était vraiment au 15e siècle à la Renaissance où on découvre ces textes-là, on se dit voilà, on va se mettre dans la continuité. Et de la même manière que les Grecs, eux avaient l'impression qu'ils descendaient d'une figure mythologique justement, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est comment on crée enfin l'identité, oui, comment on crée un effet de similarité, on crée des relations entre nous, ça veut dire qu'on va se dire qu'on a une filiation commune, quoi. Et la mythologie, en fait, il y a plusieurs choses. Moi, j'ai été élevée par mes grands-parents maternels, du coup, et j'ai un grand-père qui a été fasciné par toute la mythologie grecque, etc. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est que j'ai lu, mais j'ai lu assez tard. Par contre, quand on était enfant, il nous racontait tous les mythes comme ça, mais sans lire vraiment, mais en nous racontant vraiment dans la voiture, ouais, on allait en vacances, ouais. Il nous disait. Donc moi, ça faisait vraiment partie de mon paysage imaginaire. Et après, en grandissant aussi, et le côté avec ma famille tunisienne, en fait, ça, c'est le côté aussi où il y a de la fabrication là-dedans avec la Grèce antique, enfin, la filiation, etc. C'est qu'en fait, tout ce qui est de la Rome antique, la capitale est surtout à Byzance, donc c'est la Turquie actuelle. Et par exemple, quelqu'un comme Saint-Augustin, il est tunisien. Donc je me suis dit, oui, c'est intéressant aussi que ça, du coup, tous ces mythes-là soient attaché seulement à l'Occident, alors qu'en fait, même dans les identités africaines du Nord, c'est vraiment des mythologies qui ont habité la chose aussi, quoi. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que oui, toutes ces figures-là, elles... C'est vraiment très fort, les mythes. En fait, c'est vraiment des récits, mais qui sont des constructions. Pour moi, c'est des récits cosmogoniques, en fait. C'est des récits de construction de monde. Et donc, se mettre dans ces figures-là, en fait, ça permet de dire énormément en disant très peu, juste en citant, tu vois, Polyphème, etc., je vais pouvoir dire des choses qui sont immenses et avoir plusieurs couches. J'aime bien aussi ça, en fait, laisser le lecteur, la lectrice avoir ces espaces où elle peut aller et aller prendre des choses qui sont la sienne sans que moi je vienne intervenir trop dedans. Et je trouve que les mythes, ça me permet de faire ça aussi, quoi. C'est-à-dire de mettre une figure de repère, d'ouvrir là un espace immense et de dire à la personne, voilà, tu peux aller explorer et ça t'appartient à toi autant que ça m'appartient à moi, quoi.
Bien, alors je pense qu'on va peut-être conclure là. Et un grand merci pour ton livre que moi, j'ai reçu comme un cadeau d'une mère à la mère que je suis. Donc un très très grand merci pour ton livre.
Un grand merci à toi et un grand merci pour tes questions qui m'ont beaucoup touchée.
Vous avez peut-être entendu un peu de bruit en arrière-fond, c'est tout simplement parce que notre entretien là a été enregistré le samedi 6 avril, l'après-midi, pendant le festival du premier roman sur la place de la Trémoille à Laval. Voilà, c'est la littérature. On est entouré de livres. Et que demander d'autre pour passer un bon moment que d'être au milieu des livres ?